Bonsoir. Enfin de retour, parce que ce soir, il n'y a pas de football. Et je suis en compagnie de Justine Vachon et Geoffroy Morin à la console. On a aussi un invité, donc on vous nommera plus tard. Alors, ce soir, on parle de phobie. Pourquoi on parle de ça? Parce que j'ai vu qu'il y avait une statistique où on nous disait que 7 à 10 % des gens qui ne se font pas vacciner ne le font pas par peur des piqûres ou des aiguilles. Et évidemment, mon grand 6 pieds 4, genre joueur de football, va-t-il s'avouer ou avouer à son environnement qu'il a peur des aiguilles ou nous dira-t-il « Ah, j'ai pas confiance à ça, ça fait pas assez longtemps », etc., etc. Donc, on aimerait ce soir parler de la vérité des phobies. Les phobies, c'est d'avoir une peur irrationnelle de quelque chose ou d'une situation. Ça peut être, par exemple, les endroits confinés, comme dans la claustrophobie, ou dans la foule, l'agoraphobie, ou les ascenseurs, les avions, etc. Nommez-les. Ça peut être la peur des chiens, des araignées, des souris aussi. Donc, ça peut être des peurs animales. Et les gens ont peur de faire des crises de panique. Ils vont souvent faire une panique lors d'un premier événement et ils vont anticiper l'événement d'avoir peur une deuxième fois, de faire une crise de panique. Donc, vous devez nous appeler dès maintenant pour réserver le circuit. Alors, c'est le 790-9850. Si vous venez de la région de Montréal, 514. Partout au Québec, 1-866. Ou par texto, 98985. Alors, j'ai devant moi Justine. Vas-y, ma grande.
Moi, j'ai une petite confidence à te faire, oui, ma chère Doc. Moi, j'ai des dindes sauvages chez moi. Mm-hmm. Et j'ai peur d'elles. On dirait que je me dis qu'elles vont m'attaquer par derrière. J'en ai beaucoup. J'ai montré ça à mes collègues de la salle des nouvelles cet après-midi. Ils ont compris. Ouais. C'est des grosses bêtes. C'est peut-être pas une phobie, peur irrationnelle, là, quand je t'entends parler de ça.
C'est une peur rationnelle. Ouais.
Mais j'aime pas ça. Non. Je me souviens aussi quand je travaillais très, très tôt le matin. Mm-hmm. Je brassais toujours mes clés très rapidement. Ouais. Tu sais, vers les 3h30, ouais, 4h. J'avais, ouais, peur des moufettes.
Aussi. Oui, bien sûr.
J'avais peur des moufettes.
T'as-tu peur des hirondelles? Nous autres, on avait des carreaux rouges à épaulettes qui nous frôlaient les cheveux, ils nous dépeignaient, là.
Ah oui, hein?
Alors, on se promenait avec un parapluie qu'on faisait tourner proche de notre tête, puis on le faisait tourner pour éloigner les carreaux rouges à épaulettes dans la période de la ponte.
Alors, on pose la question, oui, ce soir aux auditeurs, puis là, on est en toute confidence. Vous pouvez changer votre nom,
absolument,
si vous le souhaitez.
Parler de votre belle-sœur, votre beau-frère,
tout à
pas
fait
de problème, on les connaît pas.
Avez-vous des phobies? Est-ce que ça vous empêche de, oui, de justement de poursuivre votre quotidien, par exemple, quand ça arrive? Est-ce qu'elles prennent, ces phobies-là, le contrôle sur votre vie? Appelez-nous dès maintenant, 514-790-9850, partout au Québec, 1-866-790-9850, par texto encore, 98985. Je vais tout de suite prendre vos appels.
Absolument. Et ce soir, ce qu'on veut faire avec vous, c'est de vous donner des trucs, des moyens que vous allez mettre dans votre sac à dos et que vous allez pouvoir utiliser ou diffuser à des gens qui en sont atteints. Et à ce moment-là, on va voir comment les gens s'en sont sortis. Vous pouvez nous donner vos trucs aussi. Alors, on a plein, plein de moyens qu'on va vous donner pour essayer de sortir de ce guet-pied qui est la phobie. On a tout de suite M. Sylvain qui veut nous parler. Bonsoir, Sylvain.
Bonsoir, Mme Laberge. Content de vous revoir après.
Absolument.
Ben oui.
On a eu une interruption footballeuse.
Oh, oh oui, puis là, le hockey dans un mois, mais bon, c'est loin, on a le
temps
de faire.
Chaque jour suffit sa peine.
Ben oui, exactement. Tu sais, vous parliez avec monsieur au début à moins 10.
Oui, oui, avec Patrick.
La phobie est large, hein?
Oui, très large. C'est un trouble anxieux fréquent. Oui, oui.
Clairement, tu sais, je prends la médication pour ça, puis j'ai eu une attaque de panique, c'est avant-hier, d'ennui. Ça m'a duré quasiment une demi-heure. Il faut que je prenne les médicaments pour l'enterrer un peu. Mm-hmm. Malheureusement, ça, une fois que c'est parti, t'as pas grand temps. C'est un peu comme un mal de cœur. Ça
exact
part, tu le sens. Tu as une solution de prendre un médicament pour essayer de respirer, comme vous disiez tantôt, mm-hmm, ou d'essayer de changer les idées, d'essayer de focaliser sur quelque chose qui va pas faire augmenter la crise de panique.
C'est quoi votre moyen, vous, pour différer?
Ben, normalement, je vais prendre mon cellulaire et je vais essayer de regarder quelque chose, si je suis capable, si la crise est pas trop forte.
Okay.
Je vais essayer de regarder, de focaliser sur une image, quelqu'un qui parle en direct.
Mm-hmm. OK.
Ou je suis pas capable, ben des fois, je vais appeler le 811 pour essayer de faire descendre ça un petit peu.
OK.
Mais j'essaie de le faire par moi-même, mais c'est pas toujours évident quand ça te pointe sur la rue, là.
Est-ce que le jour, vous avez une technique respiratoire à pratiquer 3 fois par jour, besoin, pas besoin?
je l'essaie. Des fois, je me ferme les yeux, j'essaie d'écouter de la musique.
Ça, c'est-tu quand ça va pas bien ou quand ça va bien?
Ben, je vais dans les deux sens.
Okay.
Puis des fois, j'écoute de la musique, puis ça me pointe quand j'écoute de la musique. C'est fou, hein?
OK.
C'est...
Puis qu'est-ce qu'il y a?
Autant.
Parce que quand on respire trois fois, ben, par exemple, trois minutes, trois fois par jour, avec quatre secondes d'inspiration, six secondes d'expiration, et qu'on ne pense qu'à une petite bulle d'air qui monte dans une colonne d'eau, on visualise ça en même temps, et on le fait systématiquement trois fois par jour, cinq fois par jour, ça dépend. On prend l'habitude de se sentir la respiration légèrement modifiée avant qu'elle soit rendue dans le plafond où on soit au maximum de la crise. Et on peut
souvent,
le défaire souvent.
Souvent, Mme Laberge,
oui.
On respire par la bouche, au lieu de par le nez. Puis ça fait toute la différence.
Absolument.
Des fois,
absolument. Mais vous respirez, il y a beaucoup de gens qui sont congestionnés ces temps-ci avec l'herbe à poux. Ça fait que on respire comme on peut, mais vous avez tout à fait raison. Ben merci beaucoup Sylvain, puis on espère qu'on va venir
à vous.
Ben merci, à la prochaine. Marie-France, bonsoir.
Bonsoir, ça va bien?
Ça va très bien, vous-même, Madame Marie-France?
Oui, ça va bien. Écoute, moi, c'est la peur des aiguilles. Alors, comme j'expliquais à votre recherchiste, dans le fond, c'est comme ça a été toute une aventure pour moi, parce que avant même de me rendre là, ça faisait une semaine que je me mindais pour aller me faire vacciner.
Oui.
Après ça, j'ai fait 4 crises de panique avant même de me rendre là.
OK.
Ça m'a pris des activants, des 1 mg pour pouvoir être capable de me rendre là encore.
Mm-hmm.
Puis rendu là, ben c'est trop drôle la vie. Je suis tombée sur quelqu'un qui est comme, c'est ma voisine, puis c'est elle qui s'est occupé de moi. Mon Dieu, j'avais une sauveuse, tu sais, puis ça a été déjà là moins pire parce que j'étais tellement, en parenthèse, j'étais stone, là, j'avais 20 trop pris d'activant, mais sinon, j'aurais jamais pu me rendre là. Ça fait en part de moi, cette peur des aiguilles, c'est épouvantable. J'ai consulté pour ça, j'ai fait beaucoup de méditation. Mais
qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme truc?
Ben, c'est la respiration, comme vous avez dit, mais on dirait que c'est comme si cet état d'esprit-là, la peur de l'aiguille, pour moi, c'est plus fort que n'importe quoi. J'ai bien beau me dire, hey, écoute, Marie, prends sur toi. Puis tout le monde me dit, prends sur toi, Marie, t'es capable.
Mais est-ce qu'on a déjà, avec vous, décortiqué les événements? Par exemple, on recule. Vous êtes à la maison, vous avez votre rendez-vous à 2h15, vous partez à 2h15, OK? Est-ce que de mettre vos chaussures pour quitter la maison, le niveau de stress il est à combien? Le niveau d'anxiété? 0 à 5, là, on va clarifier ça.
À 0 à 5, moi, je suis déjà à 5.
OK.
C'est tout le long que
donc,
je suis
est-ce que
5,
si on ramène ça, OK, on décompose. Mettre vos souliers, objectivement, là, mettre ses souliers, c'est quoi le niveau d'anxiété de mettre ses souliers?
Il n'y en a pas.
OK, parfait. Donc, je défais mon mouvement et je dis... Je mets mes souliers. Je suis donc à 0. Je ouvre la porte. Je suis à combien? À 0. Hein?
Ben, c'est ça. C'est tout le processus de ça. Mais on dirait qu'à un moment donné, c'est comme si ça devient plus fort que toi.
Je le sais, mais est-ce que vous pratiquez votre méditation juste quand vous avez peur ou vous la pratiquez tous les jours?
Ben, honnêtement, ça faisait un coup que j'en avais pas fait de méditation.
Ding-dong, voilà.
Ding-dong, exactement. C'est comme tout ça que j'avais comme mis de côté.
Ouais.
Mais finalement, c'est sûr qu'à ma année, faut que tu prennes sur bois. Tu sais, moi, c'est comme depuis que je suis née que j'ai peur de ça.
Absolument.
Moi, quand je suis née, je restais quoi? Je restais un mois à l'hôpital, branchée sur des machines.
Ouais.
Fait que
ça a marqué.
Dis,
ouais.
Ça a marqué en quelque part.
Est-ce que vous êtes accompagnée, par exemple, dans une thérapie de désensibilisation?
Ben c'est là une couple d'années, je pense que ça fait 8 ans, j'en ai fait une grosse, écrire là-dessus, toutes ces choses-là, c'était parfait, mais comme on m'a dit, fais pas comme genre piquer à tous les jours, ben c'est comme si
c'est
un travail tout le temps, faut tout le temps que tu recommences. T'as pas le choix, tu vis avec, c'est comme ça, tu sais.
C'est exactement ça. C'est sûr que c'est pire la peur des aiguilles que la peur des crocodiles, parce que les crocodiles, on n'en voit pas souvent si on évite d'aller au zoo.
Non, c'est ça.
Mais souvent, les gens aussi vont développer d'autres phobies. Alors, si vous recommencez à faire votre désensibilisation, C'est un peu comme les désensibilisations d'allergie, hein. À un moment donné, les gens, ils recommencent un petit peu. Il faut des fois donner un petit, entre guillemets, un petit booster, là, un petit, on va faire une petite rechute. Ben, je vous souhaite bonne chance, puis merci beaucoup. À la prochaine.
Bonne soirée à vous, là. Bye-bye.
Bonne soirée, bye. Monsieur André?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment ça va?
Bien, merci, vous, oui. Colin, j'arrive bientôt à ma commande.
Oui, OK, pour vous. Allez.
Ouais. Moi, là, c'est la peur des crustacés, puis ça, c'est depuis la maternelle.
Expliquez-moi ça, là, la peur des crustacés.
Bon. Moi, les crustacés, je parle de homards, de crabes, de tout ce qui est ces bébites-là, là, ça m'écœure au plus haut point.
Ah, OK, vous avez comme une répulsion, là.
Ben, non, j'avais une peur aussi.
Oui.
Est devenu moins pire avec le temps.
Ouais.
Maintenant, j'ai plus besoin de faire le détour au comptoir à l'épicerie, mais disons que dans le temps, je faisais le détour.
Ouais.
Puis ça, c'est ça. Quand j'étais jeune, j'aimais pas ces bébites-là. Puis à un moment donné, je me souviens, on était à la maternelle, puis il y avait un petit camarade de classe qui, lui, en avait, mais séché, puis il les avait emportés pour faire une espèce de petite exposition. Là.
Ouais.
Puis j'aimais pas ça.
Ouais.
Fait que je m'étais retiré du groupe, puis à un moment donné, en me retournant, il m'en avait collé un sur le bras.
Ah ben oui.
À partir de là, ça a été fini, final. Mais comme je vous disais, en vieillissant, c'est moins pire.
Okay.
Je peux passer à côté de l'aquarium à l'épicerie sans avoir des frissons à grandeur du corps, mais je les regarde pas.
OK. Fait que vous avez donc appris à vivre à côté sans vivre avec. Une chance que votre partenaire n'est pas une amoureuse des homards en saison?
Oui, elle vient d'Afrique. Fait que oui, elle aime beaucoup les homards, les crabes. Oui. Ça me dérange pas. Elle va en faire à la maison. Elle va les décortiquer.
Good.
Aucun problème.
Tu vrai?
Je peux manger à côté.
Oui.
Mais t'apprends pas après ça puis je veux rien savoir. Je vais manger la chair si elle me le décortique.
Parfait. S'il est transformé puis il n'a pas l'air d'un homard, elle va vous donner un petit morceau de viande puis ça va passer.
Ah, tabarnouche, c'est bon.
Bon, ben parfait. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Merci
et bon appétit.
Aussi.
Votre commande qui est
Merci.
Arrivée. Bonsoir, Madame Virginie.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Parlez-moi.
Oui, moi, j'ai une peur des poires.
Expliquez-moi ça.
La carpophobie. Oui,
ouais.
Ça s'appelle la carpophobie, mais moi, c'est spécifique. Les poires. La carpophobie, c'est la peur des fruits et des légumes.
Ouais, ouais.
Mais moi, c'est spécifiquement les poires. Je ne peux pas voir quelqu'un manger une poire. Je ne peux pas acheter une poire. Mes collègues de travail n'ont pas le droit de manger de poire devant moi. Mes enfants ne peuvent pas manger de poire devant moi. J'ai peur des poires.
Qu'est-ce que ça vous fait comme sensation? Comme effet?
Mais c'est un peu comme entrer avec les crustacés, peut-être.
Mm-hmm.
Ça me roule dans la bouche. Là. Je ne peux pas croire que les gens mangent ça. Là.
D'accord. Mais c'est quand c'est oui. quelqu'un d'autre qui mange ça, si vous voyez. On jase, là. Supposons que votre enfant mange un dans la salle à dîner, puis que vous avez affaire dans le salon. Est-ce que vous en allez dans le salon parce que pour éviter que le cœur vous lève?
Oui.
OK, parfait. OK. Donc,
oui,
c'est vraiment
le
dégoût.
Oui,
c'est
un dégoût, mais c'est vraiment, je crois que c'est la texture de savoir que les gens mangent là-dedans, mais c'est devenu une phobie. Tu sais, c'est vraiment une phobie, là. C'est complètement irrationnel. Les gens savent, la salade de fruits à Noël, elle ne peut pas avoir de poire. C'est vraiment, là, c'est...
Qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer votre confort face à ça?
Premièrement, j'évite.
Oui.
Et deuxièmement, c'est sûr que il y a comme des grandes respirations qui se prennent si jamais je peux pas éviter, là.
Oui.
Mais voilà.
Est-ce que vous avez déjà, outre travailler la respiration, travaillé de voir autrement la situation?
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Je veux dire, voir autrement, c'est peut-être... Parce que souvent, là, c'est plus un dégoût qu'une phobie peur. T'as pas peur qu'elle t'attaque, t'as pas peur de...
Non!
Ça t'écœure de l'avoir dans la bouche parce que ça roule dans la bouche. Puis c'est comment est-ce qu'ils font pour manger ça? C'est un petit peu ça, à moins que je comprenne pas, là.
Oui, ben c'est okay. ça que je pensais aussi. Okay. Après ça, j'ai fait un peu de recherche, puis apparemment, c'est vraiment...
Parce que la phobie, ça va se caractériser que quand vous voyez quelqu'un qui mange une pêche, vous avez le cœur qui débat, vous avez la respiration rapide, vous avez des étourdissements des fouets, vous avez des fois des pétillements autour des doigts, puis une crise de panique là-dessus, là.
Non, ben là, ça va pas jusqu'à
ça, c'est
là,
la phobie. Ça, c'est la phobie. La phobie, okay. ça donne une augmentation du rythme cardiaque, le rythme respiratoire rapidement dès que l'outil, si vous voulez, ou l'objet ou la situation se reproduit. Tu perds le contrôle. Okay. Vous, c'est plus une répulsion, ça vous écœure. Ah. Mais en quelque part, vous vous virez de bord puis vous n'avez pas cet écœurement-là si vous ne voyez pas la personne qui en mange.
Non, c'est ça.
Parfait. Okay, ah, ben j'aime ça que vous ayez posé cette question-là. Ben je vous remercie.
Oui, c'est intéressant la différence oui. entre les deux. Merci,
oui.
bonsoir.
Ben merci à vous. Et on s'en va en pause. On revient tantôt sur les phobies. En avez-vous? En avez-vous vu des gens qui ont des phobies? Comment vous êtes-vous passé au travers? Bonsoir, on est de retour avec vous. On est assez contents, on est tout excités parce qu'on s'est retrouvés. Justine est avec nous dans le studio et Justine, t'as plein de choses à nous raconter.
Ah oui, on posait la question depuis le début de l'émission, aviez-vous des phobies? Et les lignes sont pleines, beaucoup de commentaires aussi via le 98985. On a Pierre-Olivier qui nous dit une phobie de l'avion, mais qui ne m'a jamais empêché de voyager, dit-il. Et même faire un vol transatlantique de 8 heures jusqu'à Barcelone, mais c'est jamais facile. Je serais curieuse de voir le truc que Pierre-Olivier s'est trouvé.
Oui, oui.
Je sais qu'il y a cette formation qu'on peut faire, je crois que
Absolument.
C'est via Air Canada, si je ne m'abuse.
Il y en avait aussi en privé.
C'est ça, hein?
Oui.
Donc, une genre de formation que les gens peuvent suivre.
Virtuel.
Simulateur oui. et tout ça. Pour apprivoiser le vol. On a un auditeur qui nous écrit une phobie des oiseaux avec besoin de fuir lors de leur approche. Mon père en a eu peur et je l'ai vu toute ma jeunesse avoir peur et cela m'a été transmis. La sienne s'améliore et s'atténue tandis que la mienne empire. Je fais des crises d'anxiété à leur vue. Ah, ça, c'est intéressant, Doc.
Ouais.
Donc, on a vu notre parent avoir peur
ouais.
et on a peur à notre tour.
Tout à fait. Et il y en a qui se posent la question si c'est familial ou si c'est génétique, entre autres pour la peur des aiguilles, parce que souvent, ça se transmet. Tu as des aiguilles quand tu es petit parce que tu as des vaccins. Et si tu vois ton parent qui panique, mais tu sais, est-ce que c'est génétique? À qui? On le sait pas encore tout à fait, mais il y a quelque chose là.
Ce qui revient beaucoup, les serpents.
Ouais.
Bonjour, j'ai la phobie des serpents. Vraiment, je ne peux même pas les voir en photo. Alors ça, c'est, ça va au-delà. Phobie des insectes, ça revient beaucoup. Mais depuis le début d'émission, puis évidemment, ben, c'est d'actualité. La peur des aiguilles revient énormément
oui.
au niveau de vos réactions. Alors vous, avez-vous des phobies? Aviez-vous des peurs? Appelez-nous 514-790-9850. Partout au Québec, 1-866-790-9850.
Tout à fait. Et on va avoir une petite conversation avec Mme Ginette. Bonsoir, Mme Ginette.
Bonjour, mesdames. Là, je ne sais pas si c'est considéré une phobie ou non.
Bon, on va regarder ça ensemble, chère.
C'est les clowns. Je suis pas capable avec les clowns. Je passerais dessus avec mon char.
Okay.
Je reculerais juste pour être sûr qu'ils sont écrasés.
Parce que?
J'ai aucune idée. Ils me rendent agressive. Puis ça a commencé quand j'étais tout petite, juste à y passer, là, je suis comme... Quand j'étais tout petite, quand j'ai commencé à avoir des mémoires, là, tu sais, avant 2 ans, on pense qu'on ne s'appelle
ouais.
de rien. Mais dès quand j'ai commencé à avoir des mémoires, là, je me rappelle, j'avais un clown, il me donnait ça dans le temps, un clown où tu tournais le nez puis ça faisait de la musique.
Ouais, ouais,
je
ouais,
me rappelle
ouais, ouais, ouais.
avoir détesté cette affaire-là puis le briser juste parce que il fallait le tuer. Là.
OK. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui vous a correspondu, qui vous tapait ses nerfs. Vous avez décidé. Théoriquement, ce n'est pas une phobie comme telle. Comme j'expliquais tantôt, est-ce que quand vous voyez un clown, par exemple, à la télé, ou vous voyez un clown dans la vie, dans un party d'enfants, parce que vous avez certainement été exposé, si vous avez des enfants, il y a certainement quelqu'un qui a fait un party avec un clown, là.
Est-ce avec un clown, parce qu'ils savent que je vais
vous avez pété votre coche. Mais est-ce que vous, vous avez le cœur qui débat, la respiration rapide, vous vous sentez mal, vous êtes obligé de vous pousser, quand vous voyez un clown, ou vous avez juste « qu'est-ce qu'il fait là, lui? J'ai le goût de le puncher, puis c'est tout. »
Oui, c'est ça.
J'ai le goût de le puncher.
Il me rend agressif, mais pas le goût de le puncher, là. C'est comme si les clowns, ça devrait pas exister.
Okay.
Je comprends pas ça. C'est juste, là, juste pour faire peur aux enfants.
Voilà. Donc, vous inférez que les enfants ont plus peur des clowns, ce qui n'est pas toujours le cas, mais vous, dans votre tête, peut-être que quand vous étiez petite, le clown en question, il y a quelqu'un qui vous l'a mis dans la face ou un petit geste malencontreux et qui vous a fait peur. Puis là, vous pensez que les clowns font peur au monde alors qu'il y a des enfants qui n'ont pas peur des clowns. Il y a des enfants qui ont peur de rien. Là. Mais effectivement, ça se peut que vous inférieriez ça, que dans votre tête, ça soit imprimé qu'un clown, c'est là pour faire peur au monde. Puis moi, je veux pas que les enfants aient peur. Donc, moi, là, un clown, je me débarrasserais de ça. C'est très possible.
Absolument.
Mais à ce moment-là, vous savez ce que vous pouvez faire pour vous donner une petite chance, c'est de vous dire dans votre tête, moi, j'haïs ça. Mes enfants ont eu peur des clowns. Mais quand je les regarde, là, il y en a qui n'ont pas peur du tout. Donc, on va les laisser, ceux qui n'ont pas peur. Puis ceux qui ont peur, on évite. Il y en a des enfants, mais vous me faites penser, il y a des enfants qui ont des peurs paniques du Père Noël, là. Puis il y a des parents qui pensent qu'ils leur rendent un service en allant voir. Viens donc voir le Père Noël, on va faire des photos. Non, on fait pas des photos. Ça fait que... Oui, c'est ça. Il y en a qui aiment pas ça. Ça fait que merci de nous avoir donné ce témoignage, mais rassurez-vous, c'est pas une phobie.
All right, je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, bonne soirée. Éric, bonsoir.
Oui, salut, ça va?
Oui, ça va bien, et vous?
Oui, merci. Moi, c'est j'ai 48 ans, puis ça va de pire en pire, là, c'est depuis que je suis jeune. C'est tout ce qui est dans l'eau, poissons, fruits de mer, etc.
Okay.
au point que ma conjointe, elle peut pas en manger.
Okay.
Si elle en mange, elle n'a pas besoin de me dire qu'elle a mal à la tête. C'est clair que j'y touche pas.
Okay.
Si je vais au restaurant avec du monde, puis ils ont mangé du poisson, avant de partir, je peux pas leur donner des becs ou leur donner la main. Même si on mangeait avec une fourchette, c'est impensable. Le fameux jeu le ferais-tu pour combien sur le prix, il y a pas de prix pour que j'en mange ou que j'en touche.
Ce que je comprends, c'est plus un dégoût qu'une peur panique. Ça vous écœure. Ou bien donc, vous avez peur du poisson?
Bien, c'est plus que m'écœurer parce que si je pars à la maison, souvent pour le travail, j'ai besoin de coucher à l'extérieur.
Ouais.
Ma femme va en profiter pour en manger.
Oui.
Pour même pas qu'elle mange avec nos ustensiles que je me sers à la maison.
Pis ça, elle le sait pas? Si vous le savez pas?
Ah, bien, si je le sais pas, mais elle le saura pas.
Mais en tout cas, moi, ça me fait plus. Est-ce que vous avez le cœur qui débat? Est-ce que vous avez la respiration rapide quand elle vous dit, bien, mon chéri, j'ai mangé un bon filet de sol?
Je viens tout croche. Si quelqu'un me touche par inadvertance, parce que mes chums le savent, toute la soirée, si mon chaud bras, je vais sentir exactement l'endroit où ils m'ont touché. Là. Je vais le sentir sale, je vais aller me laver aux toilettes. Ça reste jusqu'à temps que je prenne une bonne douche.
Vous, là, c'est la saleté puis le gluant, là. Ça ressemble-tu à ça? Du poisson?
Aucune idée. Je fais beaucoup de voyages. Je me baigne pas dans la mer parce que j'ai peur des poissons.
En tout cas, moi, je pense que
un poisson rouge ou peu importe, je serais pas capable de faire ça.
Avec une psychothérapie cognitivo-comportementale, là. OK, ça s'appelle comme ça. Cognitivo-comportemental. Vous pouvez demander à l'ordre des psychologues, des spécialistes là-dedans. Et souvent, quand c'est ciblé comme ça, il y a des traitements qui sont très efficaces et ça vaudrait probablement la peine que vous y alliez. Alors, je vous remercie beaucoup, puis on va à la pause et aux nouvelles et on se revoit après. Bonsoir, on est très heureux de vous retrouver. Alors, on sait que ce soir, on parle de phobie et notre numéro de téléphone, c'est le 514-790-9850 ou dans la région 1-866-790-9850 et le texto 98985. On attend vos appels avec impatience parce que on a de la difficulté entre dégoût, écœurement et phobie.
Absolument.
C'est intéressant de faire la différence.
Et j'aimerais qu'on revienne sur un aspect, Doc. Oui. Tu parlais avec une auditrice tantôt par rapport aux clowns et
Ginette,
tout ça.
Oui.
On parlait de la peur des enfants. Qu'est-ce qu'on fait justement avec la peur des enfants? Tu parlais tantôt du Père Noël, un enfant qui veut pas aller sur les genoux du Père Noël.
Ouais.
Certains parents vont les obliger. Qu'est-ce qu'on fait avec les peurs de nos enfants?
Mais d'abord, on les reconnaît. On dit, par exemple, l'enfant qui a peur du Père Noël, on dit, ben, t'as raison. Qu'est-ce qui te fait peur chez le Père Noël? Là, il va dire, il y a une grosse barbe. Ah oui? OK. Puis ça fait quoi quand tu as une barbe? Ah, ça fait mal, ça pique. Ah, ça pique. OK. Veux-tu qu'on y touche avec la main, juste pour y toucher avec sa main? Non, je veux pas. OK. Une autre fois, quand on va voir un Père Noël, on va, par exemple, si on a une barbe pas loin, ou un grand-papa qui a une barbe, ou quelqu'un qu'on connaît, on dit, « Hey, ça te tenterait-tu de toucher la barbe à grand-papa juste pour voir si ça pique? » Puis tranquillement, on va s'adresser à la peur qu'il a, accompagner, et souvent, les objets de peur deviendront des objets relativement banalisés. Mais on reconnaît la peur. Un enfant qui a peur de se faire piquer à son vaccin, on dit, t'as raison, ça pique. Et c'est désagréable, ça pique, ça brûle. Moi, des fois, je prenais la main de l'enfant puis je faisais une petite pincette cochonne entre mes deux ongles.
Oui, on pinçait, oui.
Une petite pincette, tu sais, comme les pincettes entre frères et sœurs, là, tu sais, oui, les petites maudites pincettes entre les deux ongles. On faisait ça puis on disait, est-ce que ça fait mal? Non, ça fait pas mal. Oui, ça fait mal un peu. Bien, de piquer, ça donne cette sensation-là. Pas pire, pas moins pire. Mais c'est comme ça. Est-ce qu'on essaie? Ça fait juste ça? Ah oui, ça fait juste ça. On va y aller.
Donc, on banalise pas
On ne banalise jamais la peur de quelqu'un. C'est une peur réelle. On peut l'aider à la banaliser si c'est possible. Ça dépend de l'ampleur.
Via le 98-985, on a quelqu'un qui nous écrit « La phobie des rats, des rongeurs, pas capable, je me sauve », dit Toby. Ouais. On a la peur du sang aussi qui est beaucoup revenue. Ouais. Hein.
Ça, c'est fréquent.
Peur du sang, je fais une chute de pression, dit l'auditeur, quand je vois du sang. Ouais. Sauf dans les films d'horreur.
Ah, tiens donc.
Ah, peut-être parce qu'on sait que c'est du faux sang.
Exact, exact. C'est ça? Dépend, c'est pour ça que ça dépend de notre perception. Si je perçois que ça peut être dangereux pour moi, que je suis menacée, moi, c'est sûr que c'est pire. Mais il y en a que même dans les films, ça ne passera pas.
Il y a quelqu'un qui dit, moi, c'est la phobie des ballons,
Oui, oui.
Comme ceux que l'on donne aux enfants, je ne peux pas être dans la même pièce qu'une balloune. Ça me terrifie et j'en pleure. Est-ce que souvent, c'est relié à l'enfance?
Souvent, c'est relié à des souvenirs. Tu sais, il y a des enfants, malheureusement, tu sais que dans les hôpitaux, on n'a plus de ballons pour les enfants. Hein? On n'a plus
vrai.
De ballons. Est-ce que tu sais pourquoi?
Vas-y.
Parce qu'il y en a qui ont éclaté dans la face du bébé, puis le bébé, il a fait « Ah! » Et il a avalé le morceau.
Ah oui.
Donc, on a eu exceptionnellement, mais tu sais, c'est pas des légendes urbaines. Il y a des enfants qui sont décédés d'avoir avalé un morceau de ballon de caoutchouc qui a bloqué la respiration. Donc, oui, on n'a plus de ballons, comme on dit, des ballons.
Des ballons de feinte, oui, c'est ça.
Qui vont exploser dans... Fait que là, peut-être que cette personne-là a déjà vécu quelque chose comme ça, a déjà été surprise par le bruit que ça fait. Elle pensait qu'elle a associé ça. Tu sais, on parle pas aujourd'hui de l'état de stress post-traumatique. Mais on s'entend que les gens qui ont eu des expositions à des traumas qui ont menacé leur vie, je suis sûre que s'ils entendent un ballon qui éclate, ça doit raviver aussi ces peurs-là. Donc, au point extrême, c'est quand ta vie est menacée. Mais les rats, les souris, etc., oui, c'est des choses qui sont à la fois répugnantes, à la fois ça transmet des virus et des bactéries. Donc, ça se peut que les gens qui aient lu La Peste ou qui aient lu des romans comme ça soient restés avec des images comme ça. Et le traitement, c'est souvent de déconditionner et de relativiser la peur. Mais c'est un travail de longue haleine.
Mm-hmm. Alors, rappelez-nous, quelles sont vos phobies? On est en ce vendredi soir, en toute confidence. Vous
on
nous
se fait
appelez.
Des peurs!
Voilà, 514-790-9850.
Et c'est des peurs qui sont tout à fait justifiées, dont il faut s'occuper parce qu'il y a des traitements efficace contre les phobies en général. On a Fuji.
Oui.
Bonsoir.
Bonsoir, Madame Laberge.
Oui. Ah. Oui. Oui.
Je sais pas si on peut appeler ça une phobie, mais depuis qu'il m'était arrivé quelque chose dans ma vie, puis depuis ce temps-là, j'ai développé comme... j'ai toujours dit que c'était une grosse peur que j'avais, qui a déclenché dans ma vie. C'est quand mon père est parti.
Ouais.
Quand mon père est décédé en 94, j'ai essayé de prendre le métro et ça m'avait fait ça parce que la première fois après, quand mon père est parti, j'ai eu les mains moites, j'avais le cœur qui me débattait dans une station de métro. J'étais pas capable, je me sentais vraiment pas bien, là, puis je sais pas si c'est quoi qui peut avoir déclenché ça dans ma vie. Après ça, c'était dans des ascenseurs.
Mm-hmm.
Et si je suis longtemps dans un ascenseur, mettons que j'ai plusieurs étages à faire.
Ouais.
Là, ma phobie, ma peur, mes mains moites, là, je commence à avoir des mains moites. Mm-hmm. Puis le cœur me débat, puis j'ai comme de la misère même à respirer.
Tout à fait.
Est-ce que ça, on peut appeler ça des phobies ou
oui, c'est madame. Pas... Oui, madame. C'est des phobies parce que à peu près instantanément, juste à l'idée de prendre le métro, vous descendez l'escalier, puis tout de suite, vous vous metteriez à respirer rapidement, puis avoir les mains moites, etc.
Et là, je ne suis même pas capable, depuis que mon père, depuis 1994, que j'ai pas mis les pieds dans un métro. Okay. Moi, je demeure à la Chine. Des fois, j'ai affaire à aller à Montréal.
Ah oui, c'est longtemps en autobus.
Longtemps, mais moi, j'étais obligée. J'ai été obligée de changer toute ma vie quand j'ai réalisé que j'avais ça. Puis j'ai jamais compris c'est à quoi. J'ai jamais été suivie pour ça. Mais là, il a fallu que je change ma vie. Au lieu de prendre le métro, parce que
ça allait vite.
Le métro, c'est pas comme un autobus. Là, je prends un 30 minutes, des fois une heure d'avance pour me rendre...
À un endroit pour pas prendre le métro.
Il pourrait être capable de me rendre dans ma...
Il y a des traitements. Il y a des traitements. Si, par exemple, vous communiquez... Regarde, on sait que c'est pas urgent national, là. C'est pas une urgence nationale. Mais si vous donnez votre nom au CLSC ou si votre médecin vous réfère parce que vous avez des phobies au niveau des phobies ciblées qui s'appellent le métro et l'ascenseur, vous pouvez rencontrer... un psychologue, une psychologue, il y a des traitements cognitivo-comportementaux, des techniques respiratoires, des techniques de désensibilisation. Par exemple, avec les ascenseurs, déjà que vous avez une phobie, mais elle n'est pas très sévère, dans le sens où vous êtes capable de faire un étage sans qu'il arrive rien.
Vous êtes capable de faire
deux étages. Donc, vous, je présume que ce ne serait pas très long.
Là, c'est correct. Quand j'arrive à destination, c'est mon étage, j'ai pas de problème.
Parfait.
Mais si, mettons que je sais pas, moi, ça m'est déjà arrivé.
Si vous en allez à la place de Marie, là, vous allez avoir des problèmes.
Ça m'est déjà arrivé que j'allais en ville.
Oui.
Puis que j'étais au 12, 13e étage.
C'est ça. C'est la longueur.
Pas capable. J'ai ruiné de bord parce que.
Cette phobie-là, elle est présente. Mais elle n'est pas très sévère. Donc, moi, je pense que si vous avez une bonne psychothérapie de 8 semaines autour, puis vous pratiquez les exercices que le psychologue ou la psychologue vous donne, vous devriez avoir un résultat positif relativement rapidement. Sauf que, il va falloir que vous pratiquiez régulièrement. C'est comme d'aller à vélo, ça. Si vous n'allez jamais à vélo, ben c'est sûr qu'on dit tout le temps, ça revient, mais on s'entend qu'on n'est pas aussi bon que quand on l'a appris rapidement. Alors, oui, Mme Fidji, il y a de l'espoir et vous pouvez être traité, comme je vous dis, les psychologues cognitivo-comportementaux. Ça veut dire prendre connaissance de son comportement, le modifier et se faire un discours dans notre tête qui soit différent que celui qu'on voit systématiquement. Madame Julie, bonsoir. Merci, Madame Fidji.
Oh.
Alors?
Allô? Vous, oui.
Qu'est-ce qui se passe?
En fait, ma phobie, je m'excuse s'il y a des gens qui sont en train de manger, mais j'ai une énorme phobie des gens qui sont malades, qui le vomi.
D'accord.
Que ce soit moi ou les autres, là.
OK. Question, est-ce que vous êtes en âge d'avoir des bébés?
Pardon?
Est-ce que vous êtes en âge d'avoir des bébés?
Ah, j'ai déjà une fille qui va avoir 20 ans, donc cette phase-là est déjà passée.
D'accord. Elle Est-ce que pendant votre grossesse, ça a été un problème?
Ah oui, je me promenais partout avec un sac en plastique au cas où.
OK.
Mais on dirait que j'ai appris à contrôler les nausées, si on veut, pour éviter que la chose arrive.
Parfait.
Hein?
Et comment vous avez appris ça? Est-ce que vous avez vu quelqu'un ou c'est de vous-même qui avez trouvé des moyens?
Ah, de moi-même, mais c'est peut-être pas les méthodes super...
Mais qu'est-ce que vous avez... la méthode qui fonctionne pour vous, c'est une bonne méthode?
Ben, ça, en tout cas, ça m'empêche d'être malade.
C'est ça.
Règle générale. Mais si quelqu'un a mal au cœur à côté de moi, ou par exemple, je suis dans l'autobus ou le métro et je vois quelqu'un qui a bu un peu trop, puis je vois qu'il m'accroche, là, mon cerveau embarque, je me dis, oh my God, il va être malade. Je vais être du genre à débarquer du bus ou du métro, juste pour éviter peut-être que ça arrive, là.
OK. Est-ce que à ce moment-là, parce que la substance en question peut donner mal au cœur aussi, là, tu sais, je veux dire, excusez-moi, il y a une question d'odeur puis de texture, là, qui
fait que
ça peut être répugnant, ça peut être désagréable de voir ça. Il y a des gens qui sont pas capables de voir ça, effectivement. Mais est-ce que le cœur se met à débattre? Est-ce que la respiration devient rapidement, les mains moites, vous devenez étourdis? Est-ce qu'il y a des symptômes comme ça ou c'est plutôt arc, pas capable, change de trottoir?
Oh non, je deviens en sueur, j'ai les mains moites. Okay. On dirait que mon cerveau embarque sur une autre planète. Là. Je deviens hors contrôle de mon corps. Là.
OK.
Puis, je peux me mettre à partir en courant en direction opposée. Il y a des voitures, je suis sur le trottoir. Peu importe. Là.
Okay.
Mon cerveau, il part.
En tout cas, vous pouvez être aidé. L'autre chose, c'est que vous avez une fille de 20 ans qui va peut-être avoir des enfants et qui va avoir mal au cœur enceinte. Là. Ça fait que peut-être que vous pourriez aller chercher un petit peu d'aide pour vous aider à passer à travers ça. Parce que c'est vrai que c'est relativement facile à éviter. Mais que faisiez-vous quand votre fille avait des gastro?
Son père a géré une fois, mais c'est déjà arrivé que je l'ai tenue pendant qu'elle était malade et je la promenais dans la pièce. Ça a été pire que si j'avais géré comme une personne normale, si on veut, là. Mais la pauvre, elle en parle. Je pense que je l'ai traumatisée. Elle n'a pas la phobie comme moi, heureusement, mais elle me trouve ridicule avec ma peur, là.
OK. Mais vous avez raison d'avoir peur dans le sens qu'il y a un sens à votre peur. Mais je pense qu'il y a des choses à faire qui pourraient vous aider, effectivement, à changer la façon de voir ou d'interpréter ce phénomène-là. En fait, c'est beaucoup ça, c'est de respirer, c'est de dire, regarde, oui, t'as raison, c'est écœurant, là, mais voici ce qui t'est offert pour passer à côté de façon, tu l'évites pas, mais tu y fais face, mais t'es pas obligé de te mettre les pieds dedans. Tu sais, je veux dire, c'est dans ce contexte-là. Tu peux éviter la chose, mais t'es pas obligé de te rendre malade pour éviter la chose. C'est ça qu'on essaierait de faire avec vous. Alors, mais merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup d'avoir appelé.
Ben, de rien, merci. Bonne soirée.
Bye. Madame Sylvie, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous, Madame Sylvie.
Moi, j'avais une peur panique des araignées quand j'étais petite.
Ouais.
C'était probablement ma cousine qui me gardait à l'époque, qui m'avait transmis cette phobie-là, parce que je sais pas pourquoi j'avais peur de ça.
Okay.
Mais vers l'âge de 14 ans, je parlais avec mon frère, puis je disais, parce que lui, il riait de moi, je disais que j'aimerais ça vaincre ma peur des araignées.
Ouais.
Et parce que moi, je suis le genre de personne que je veux vaincre mes peurs. Donc, j'ai dit, je veux vaincre cette peur-là. Mmh. Il dit, je peux t'aider.
Donc
là, j'ai dit, ah oui? On était en camping. Il dit, oui. Il dit, faut pas que tu paniques, par exemple. J'ai dit, ben, OK. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je vais te mettre une araignée dans ma main en dessous de ton nez. J'ai dit, OK. Fait qu'il a pris l'araignée, il l'avait là, vraiment en dessous, dans sa main, dans le creux de sa main. Il me l'a mis en dessous du nez.
Ouais.
Et là, je me suis dit à moi-même, OK, si elle lui fait pas mal, elle me fera pas mal non plus.
Okay.
Alors, je tremblais de tous mes membres, là, et j'ai tendu ma main et il a mis l'araignée dans ma main.
Mm-hmm.
Et je vous jure, je pensais faire une crise de cœur, mais j'étais tellement fière de moi après avoir vaincu cette peur-là,
mm-hmm.
que maintenant, aujourd'hui, j'ai plus peur des araignées. C'est sûr que je les aime pas.
Non.
Mais, aujourd'hui, aujourd'hui, je suis capable d'écraser une araignée et à chaque fois que j'écrase une araignée du pied gauche ou de la main gauche, j'ai de l'argent qui rentre.
Okay.
Mais, je le prends d'une façon positive.
Tout à fait. Alors, c'est ça qu'on veut dire quand on parle aux gens de voir les choses autrement. Vous aviez deux peurs. La première peur, c'est d'abord d'avoir de la douleur face à l'araignée. Et il y a beaucoup de légendes urbaines au Québec. Je me suis fait piquer par une araignée, je pense. La majorité des araignées au Québec piquent pas. Alors,
on n'est pas en Afrique, là.
Exactement, tu sais, c'est pour ça, à moins d'avoir un ami qui en a une empruntée exotique, là. Mais à part
exactement.
De ça, en général, les araignées au Québec ne piquent pas. Donc déjà, il vous a enlevé la peur de la piqûre. Deuxièmement, il vous a désensibilisé. Puis troisièmement, vous avez reconnu votre peur, puis vous l'avez transformée. Alors, merci d'avoir donné la recette parfaite de la thérapie. On s'en va en pause, mais on va réfléchir là-dessus pendant la pause. Merci. Alors, on est de retour et Justine est avec nous pour nous faire le résumé de vos appels nombreux.
Ah oui, il y a quelqu'un qui nous a appelé et dit « Je peux pas vous parler en ondes, je suis trop gênée, mais j'aimerais que vous posiez la question pour moi. » J'ai dit « Avec plaisir. » Elle va en cours, elle est très stressée, elle a peur d'aller en cours, elle doit aller comparaître.
Mm-hmm.
Et là, elle dit « Est-ce que je dois faire de l'hypnose? » Elle dit « J'endors pas la nuit, je suis hyper stressée. C'est devenu pour elle une phobie, dit-elle. » Qu'est-ce qu'elle peut faire?
Ben, en fait, qu'elle consulte son médecin. et qu'elle regarde aussi avec l'avocat si c'est un témoignage dans un, je sais pas moi, un témoignage de criminalité. Là. À ce moment-là, avec le procureur, elle va probablement trouver des outils. Elle le met au courant de sa grande peur. Elle pratique dès maintenant sa respiration, sa cohérence cardiaque, que vous allez voir sur Internet, Respirelax. Et vous allez regarder sur cohérence cardiaque, vous allez prendre rapidement un rendez-vous avec votre médecin. Et souvent, on va dans des circonstances très pointues comme ça, si c'est pas une anxiété généralisée, mais vraiment reliée à un phénomène, on peut vous donner quelques médicaments, peut-être 10 comprimés, pour vous permettre d'affronter l'excédent de problèmes, puis on va vous donner un demi, un quart. Vous allez l'essayer peut-être un soir au coucher pour voir l'effet que ça vous fait. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir prendre une médication qui n'enlèvera pas votre phobie, mais qui va vous aider à mieux respirer et à reprendre le contrôle. Parce que le médicament n'arrête jamais la phobie. Il faut travailler sur comment ça va se présenter, qui va être là, quitte à aller avec le procureur dans la salle d'audience, voir comment ça va se passer, qu'elle aille avant voir un procès si la situation le permet.
Voir l'environnement donc, physique. Donc, l'hypnose, ce serait pas...
Pas nécessairement d'emblée, mais ça pourrait être un outil éventuel.
On a quelqu'un qui nous écrit les guêpes. Moi, depuis que je suis tout petit, une est entrée dans mon T-shirt et j'aimerais mieux arriver face à un ours polaire affamé que d'avoir des guêpes qui me tournent autour. Puis cette année, il y en a beaucoup, hein?
Tout des à fait. Guêpes. Et les gens ont peur de faire des grosses allergies. En général, tu ne feras pas une anaphylaxie si tu n'as jamais eu de petites réactions allergiques. Si, quand tu t'es fait piquer, ça a piqué comme un gros maringouin, mettons, là, parce que ça fait une douleur, brûlure. Mais si tu n'as pas eu plus que ça, le risque d'anaphylaxie est quand même relativement faible. Donc, la peur de la piqûre, là aussi, on peut se calmer, puis on peut, parce qu'on sait que plus on s'énerve, pire ça va être, là, on va se faire piquer. Donc, oui, technique respiratoire, oui, dire, regarde, c'est mon amie, je la surveille et je regarde ce qu'elle va faire avec moi, mais pour l'instant, je l'ai à l'œil. Je contrôle la situation.
Alors, continuez.
Avec des techniques, bien sûr.
Évidemment. Depuis tantôt, j'entends parler de respiration. Je pense que c'est la clé.
Oui.
Est-ce que vous avez des phobies? On a encore quelques circuits de libre. Oui. 514-790-9850 par texto 98985.
Et on commence par Mme Nicole. Donc, bonsoir, Mme Nicole.
Bonsoir. Je suis née en 71 et depuis que je suis jeune fille, à chaque fois que j'allais dans un lac, j'avais toujours peur que j'étais pour mettre le pied sur un cadavre.
Oui.
Puis tellement peur là que j'avais pas peur d'aller dans le lac, mais c'était vraiment là, de toucher au fond, de pas être capable de voir où ce que je mettais le pied. Mm-hmm. Et là, je paniquais, je devenais anxieuse, vraiment là, toutes sortes de sensations. Et puis, il y a eu un anniversaire, vous deviez probablement vous en souvenir. Il y avait eu un accident à Eastman où il y avait eu un autobus il y a des gens qui sont noyés, tout ça. Quand j'ai vu les journaux annoncer que c'était l'anniversaire, je m'en rappelle pas si c'était la 20e ou la 30e, là, j'ai fait un déclic. Et là, je m'ai rappelé que quand j'étais jeune fille, j'avais peut-être quoi, 8-9 ans quand c'est arrivé, mes parents étaient amis avec les gens qui appartenaient le petit motel qui était situé sur ce lac-là, devant le lac.
Okay.
Et nous, on était en visite cette fin de semaine-là et mes parents aidaient, il y avait les policiers, il y avait tout le monde, là, c'était occupé. Et nous, on était à l'intérieur de l'hôtel et les rideaux étaient fermés. Mes parents m'avaient dit, je m'en rappelle encore comme si c'était hier, vous ouvrez pas les rideaux, vous regardez pas dehors et tout ça. Fait que devinez ce que moi j'ai fait.
On a fait un petit trou pour regarder.
Oui, et puis là, je m'ai souvenu que c'est au moment où ce que les corps des gens là qui étaient victimes, qui sortaient de l'eau, et c'est sûr que là, ça faisait quelques jours aussi qu'ils étaient submergés. Alors, j'ai dit ça doit être pour ça que j'ai cette peur là.
Oui.
Même si ça me dérange pas d'aller dans un lac, mais c'est quelque chose, c'est pour
mettre le pied au fond.
C'est ça que je comprends pas.
Ben là, ça se comprend assez bien parce que ça s'est imprégné dans votre tête qu'il y avait des gens au fond qui étaient encore en train de sortir. Mmh. Puis dans votre tête en arrière, mon hypothèse, c'est que vous avez peur qu'il reste encore du monde dans le fond, tu sais, qu'il y en ait oublié un ou deux, ou qu'il y en ait un ou deux qui soient qui n'a pas été retrouvé.
Oui,
si
c'est
dans votre
ça.
Cognition, vous vous dites oui, est-ce que c'est... OK. Dans l'anxiété, on se dit, supposons que je touche à quelque chose que je pense que c'est un cadavre, OK? Quelle sera ma réaction? Est-ce que vous pensez que c'est possible ou c'est probable?
Moi, je suis convaincue que c'est ça qui va arriver, qu'il y a eu une noyade, et puis là, ça va
que ça, on peut transformer cette cognition-là. Un peu comme quelqu'un qui a peur d'avoir la foudre sur la tête. Est-ce que c'est possible ou c'est probable? On ne peut pas dire que c'est improbable, parce que ça arrive à du monde chaque année. Mais est-ce que c'est fréquent? Est-ce que le risque est très élevé? Est-ce que je vais vivre toute ma vie au cas où que j'ai un éclair sur la tête? Est-ce que je vais plutôt prendre des précautions? S'il commence à avoir un orage, j'irai pas en dessous d'un arbre. Je vais aller dans ma voiture avec les quatre pneus en caoutchouc. Quels sont les moyens que je vais prendre pour me sortir de cette idée-là? Mm-hmm. Et c'est ça qu'il faut commencer à regarder avec quelqu'un qui aille un petit peu plus loin. Parce que deux choses. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui est difficile à éviter. Parce que si vous allez avec des amis, puis vous embarquez dans le canot, puis c'est toujours dans ces circonstances-là que vous faites de la visite au lac, c'est facile à éviter. Mais si vous décidez de vous y attaquer, entre guillemets, bien à ce moment-là, ça pourra être d'aller chercher, puis qu'est-ce qui arrive si j'y touchais? Est-ce que je mourrais? Est-ce que je serais blessée? Qu'est-ce qui serait de pire? Et se demander à chaque étape, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est probable? Puis comme ça, on ne banalise pas votre peur. Là, c'est pas ça, c'est justifié en joie le vert d'avoir peur avec ce que vous avez comme passé. Mais est-ce qu'on peut transformer cette peur-là? C'est ça qu'il faut aller sonder. Alors, c'est là-dessus, si vous désirez vous sortir de l'histoire, ça serait probablement le sentier à suivre. Mais il y a des options pour vous. Vous n'êtes pas obligé de vivre avec ça toute votre vie. Alors, merci beaucoup, Mme Nicole. On va aller voir Monsieur Pierre on va le féliciter pour sa patience parce qu'il est très compréhensif. Oui, Monsieur Pierre, j'ai les deux oreilles pour vous.
Est-ce que folie et phobie se rapprochent?
Non.
Non?
Non. La folie, c'est une définition pas très précise, hein? C'est n'importe quoi. Tu sais, tu peux être fou d'amour, tu peux être fou braque, tu peux être fou furieux. C'est pas vraiment un diagnostic. La phobie, c'est un diagnostic, c'est-à-dire que c'est une peur irraisonnée d'une situation ou d'un objet qui va se manifester avec le cœur qui bat vite, la respiration qui est rapide, la moiteur, tu peux être étourdi, tu peux avoir... des pétillements dans le bout des doigts en même temps parce que tu respires trop vite, tu peux avoir des pétillements autour de la bouche et tu peux avoir peur de mourir même parce que tu peux avoir une tension thoracique, mais dans les faits, tu ne mourras pas, tu vas juste perdre connaissance. T'sais. Mais il s'agit juste que tu ne tapes pas la tête sur le bord du trottoir, là, mais quand tu te sens comme ça, d'habitude, tu t'assois et tu te mets en sécurité. Mais par rapport à des objets ou par rapport à des situations, c'est ça qui va provoquer cet état-là. Ça répond à la question?
Oui, je suis allé pour ma deuxième dose hier. La première
merci.
Fois,
oui.
J'ai été accompagné au mois de mai.
Oui.
J'ai repoussé deux fois. J'ai cancellé. Je téléphonais pour dire que je cancellais. J'avais personne pour être avec moi.
OK.
Là, hier, les Franco, puis tout, je vais le dire, c'est votre collègue de la station, Patrick Lagacé, qui m'avait accompagné, il devait être là hier. J'ai dit, non, Patrick vient pas, là. Il y a tellement de dédales, les Franco, la construction, les travaux, je voulais pas y faire vivre ça.
Okay.
J'ai dit, je vais le faire par moi-même.
Ouais.
Mais ça m'a demandé, vous avez pas idée.
Ah, je le sais. Ça vous a demandé tout votre change.
Mettez-en. Mais est-ce que ça se peut que j'étais tellement en maudit sur place que ma peur a pris le bord?
Ça se peut que votre état de colère ait été supérieur à votre disponibilité affective de ressentir la peur de la piqûre ou de je sais pas quoi, là.
Parce que j'ai demandé 3 fois de l'assistance.
Ouais.
Là, on m'a emmené dans une pièce, on m'a demandé, monsieur veut être allongé.
Okay.
J'ai jamais demandé d'être allongé, madame. Je veux juste être accompagné. La
juste
dernière
quelqu'un
fois,
qui me tienne les mains. OK.
Ben, pas qu'il me tienne les mains, mais chante-moi une idée.
OK, chante-moi une chanson. Oui.
Okay. Ben, en béton. Mais la dernière fois, pour vrai, ça s'est terminé qu'il était 4 alentour de moi.
Pourquoi?
Parce que je suis parti à paniquer après la piqûre.
Ah, OK.
Pas avant. Après.
Okay. OK. OK.
C'est fini. C'est là que, oui, le souffle et le.
Ouais. C'est ça, tout à fait. Donc, c'est pour ça.
Puis je
que...
vous jure, Doc Laberge, ouais. J'ai rien senti.
Bien, tu vois, quand vous êtes en demande de service, plus vous allez demander précisément, tu dis, moi, je veux juste être accompagné, puis après, là, vous me coucherez si je me sens pas bien, parlez-moi, chantez-moi une chanson, c'est ça que je m'attends de vous. Plus on exprime ce qu'on s'attend de la personne en face, plus la personne risque de répondre à nos besoins et plus on va s'en sortir. Alors, ben merci beaucoup, M. Pierre. C'est très gentil d'avoir partagé ça. Puis on va essayer que vous n'ayez pas une 3e dose. Et on s'en va en pause maintenant. Merci. De retour pour répondre à vos nombreuses questions, Justine, il y a des points tellement intéressants.
Oui, concernant notre question, avez-vous des phobies? Quelqu'un nous disait, en écoutant Pierre, en écoutant différents auditeurs parler de cette peur des aiguilles, peur mm-hmm. des piqûres et tout ça, mm-hmm. on disait, est-ce que c'est vraiment la peur des aiguilles ou le choc vagal qui s'ensuit ou la peur de tomber sans connaissance après l'acte?
L'événement. Bien, il y a 2 choses. La peur des aiguilles, c'est la peur vraiment d'être piqué, la mm-hmm. peur de voir l'aiguille. Il y a des gens qui, juste à la voir, ils perdraient presque connaissance. Donc, ça peut être facile avec l'évitement. Tu dis, je ne veux pas le savoir, je veux juste que tu dises 1, 2, 3, go, puis vas-y. Tu sais. Mais je ne veux pas la voir, l'aiguille. Puis souvent, de ne pas la voir, c'est suffisant. D'autres qui ont peur que ça fasse mal. Donc, alors qu'il faut que tu restes mou pour ne pas contracter ton muscle, surtout quand c'est une intramusculaire, pour ne pas contracter le muscle. Donc, il faut que la seule chose à laquelle tu penses, c'est que ton muscle est devenu un jello. Et il faut que tu essaies de garder mou, comme on dit aux patients, rester mou, parce que comme ça, ça va faire moins mal. Mmh. L'autre chose, c'est que le choc vagal, on avait ça souvent au secondaire, on en parlait avec Patrick tantôt. Tu sais, t'as les filles qui sont toutes énervées et qui s'énervent entre elles, là. Donc, l'adrénaline dans le plafond, ça s'appelle une réaction sympathique, hein, ton okay. système sympathique. Donc, le cœur va vite, le poumon va vite, le cerveau est allumé. Puis, t'as pas de sang aussi disponible autour de la digestion, au niveau urinaire. Donc, tout ce qui est lié à ta survie est allumé. Tu te rends compte que ça fait même pas mal, parce qu'on se rend compte que le vaccin COVID, il fait même pas mal pour la majorité des gens quand on injecte. Et là, le système se dit, « Hey, t'as eu peur pour rien. » Fait que là, je vais t'injecter de la noradrénaline qui va ralentir ton cœur, baisser ta pression. Mais quand tu te lèves en même temps que ta pression baisse, tu deviens blanc comme une aspirine. Tu deviens étourdi, tu as une baisse de pression et une baisse de cœur. Ce qui fait qu'en général, on te ramasse en dessous des aisselles, on te couche par terre à plat et on te lève les jambes sur le bord du mur. Parce que, en faisant ça, c'est le principe de la bouteille de ketchup, hein, ça coule dans le fond. Ça fait qu'à ce moment-là, le sang des jambes va redescendre vers le cerveau et tranquillement, tu vas reprendre tes couleurs, tu vas remonter ton pouls. Si tu ne tombes pas, c'est pas dangereux du tout, là. Mais il s'agit que tu fasses signe avant de t'écraser. Tu dis, je me sens pas bien, c'est le signal qu'il faut que tu fasses. Mais c'est un choc vagal qui est réaction au choc d'adrénaline, si tu veux, au shoot d'adrénaline que tu as eu quand tu as eu peur.
Ah, c'est intéressant. Ce qui est revenu alors, aussi, évidemment, peur des insectes. Il y a quelqu'un qui nous ouais. écrit, j'ai peur des trous de piscine depuis mon enfance. Je peux nager dans une piscine, mais je ne me tiens pas au-dessus du trou de piscine.
Ah, OK.
Quelque chose qui est revenu, la peur des orages aussi.
Oui.
Hein, peur du tonnerre, oui. là, vraiment.
Sais-tu qu'est-ce qu'on disait, nous autres, quand on avait peur des orages, les parents disaient, oui, tu sais, mais c'est Saint-Pierre qui joue au bowling. Il vient de faire un abat. Bon.
Alors, quelles sont vos phobies? 514-790-9850. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'exprimer là-dessus.
Mario, bonsoir.
Hey, bonsoir.
Oui, alors?
Ben, moi, j'ai une phobie, c'est le vertige.
Ça veut dire quoi? Expliquez-moi ça. Parce que le vertige, en soi, c'est une réaction physique. Vous, vous avez peur d'avoir le vertige ou vous avez le vertige?
Non, non, non. J'ai le vertige.
OK, OK. Expliquez-moi ce que vous ressentez.
Ah, je viens tout mal.
Dans quelles circonstances? Qu'est-ce que ça prend pour que vous ayez le vertige? Monter d'une échelle?
Monter d'une échelle, je ne suis pas capable. J'ai oublié ça, n'importe quoi.
OK.
Mais j'ai tellement peur.
Oui.
Que quand j'ai commencé, mon employeur où je traverse aux États-Unis, il y a le pont de Sarnia, j'ai dit, oublie-moi, je passe pas là.
OK.
Parce que le camion est sur le bord, puis quand je regarde par la fenêtre, là, on voit même pas la bordure de
l'arrêt,
puis on va direct en bas.
Ouais, OK.
C'est 200 pieds. Puis je me suis déjà fait arrêter par les polices à cause de ça.
OK. Puis êtes-vous capable de contourner?
Ah oui, on prend un autre pont, on prend Champlain, on peut prendre Détroit.
OK.
Mais la première fois que j'ai pris Jacques-Cartier, là,
ouais.
la police m'a arrêté.
Arrêtez donc.
Parce que j'étais... j'étais... Il faut se tenir sur le bord.
Ouais.
Puis je voyais tellement ça creux que j'ai pris mon camion puis je l'ai tassé.
OK.
Sur la voie du milieu.
OK.
La police a dit, t'as pas le droit.
Ben oui.
Ben moi, j'ai dit, j'ai le vertige. J'ai dit, je suis pas capable. Je suis vraiment pas capable. Je viens tout navré. On se sent mal, étourdi. Pis,
tout à fait.
Police, il dit, fais-moi pas rire. Ben, il dit, gars, je vais retraverser le pont, là. Puis il m'a repassé encore sa voie deuxième.
OK. Puis le policier vous a escorté, probablement?
Non, mais il dit, ça n'a pas d'allure. Il dit, c'est vraiment vrai. Il dit, oui. Il dit, moi, je ne repasserai plus par là.
En fait, vous venez pâle, vous venez en sueur, puis vous c'est avez ça. Mal au cœur, puis tout ça, là. Okay. C'est du vrai vertige. Ouais. Le vertige, c'est comme un autre phénomène. Il y a la peur d'avoir l'appel du bas, là, l'appel du creux. Là. Mais il y a une réaction physique. Et théoriquement, on peut aider le vertige, mais il y a des gens chez qui c'est, entre guillemets, constitutionnel. Ça fait partie de leur chimie personnelle. Alors là, il faudra aller voir qu'est-ce qui pourrait vous aider, vous. Mais il y a des gens qui vont avoir chimiquement une réaction comme ça, puis demandez-moi pas pourquoi, on ne sait pas. Mais merci beaucoup d'avoir témoigné ça.
Encore une chose, juste une petite chose.
Allez-y
J'ai un de mes amis que lui, la phobie, je ne sais pas si c'est une phobie, mais la propreté.
Okay.
Quand on arrête d'un restaurant ou quoi que ce soit, il y a tout le temps ces petits whippets, là, puis il essuie ses ustensiles. Puis
lui, il a peur des bébites.
Ouais, lui, là, c'est vraiment, il nettoie tout ça, puis tout, là.
OK.
Hein?
Est-ce que c'est pire depuis la pandémie ou il y avait ça depuis tout le temps?
Depuis tout le temps. Depuis que je le connais, que je travaille avec, il est tout le temps de même.
OK.
Mais même
il nettoie pas d'une fois. Il est des fois juste une fois.
Non. OK. Une fois, là.
Okay.
Mais après ça, lui, quand il demande de déjeuner,
ouais.
Il dit, c'est tomate sans pépins.
Oui. OK.
Faut qu'il enlève les pépins. J'ai demandé pourquoi. Moi, j'ai dit, il a peur que ça germe dans son ventre.
OK. C'est que...
Je voulais savoir si c'est-tu vraiment aussi une phobie, ça?
Ça, c'est une phobie, mais c'est aussi une distorsion. On appelle ça une distorsion cognitive. Donc, on pense que la personne, elle est bien convaincue que ça va germer dans son ventre. On a beau lui donner des explications physiologiques, souvent, elle ne va pas l'acheter jusqu'à ce qu'on lui prouve. Mais c'est des gens qui ont des distorsions. Ils sont des croyances que tu ne pourras pas défaire jusqu'à ce qu'à un moment donné, eux-mêmes voient que ça a pas de sens réellement. Mais tant qu'à la phobie des bibittes, ça, il y a plein de monde qui ont ça. Et malheureusement, s'il le fait juste une fois, c'est pas un tic, c'est pas un trouble obsessif compulsif. C'est juste quelqu'un qui prend des mesures un petit peu plus supérieures à la moyenne pour ne pas avoir de contamination. Alors, on va devoir aller en onde et on va recevoir Mme Mireille ensuite.
Allô?
Bonjour, Mme Mireille.
Oh, je m'excuse.
Oui.
Je pensais, OK.
Moi aussi, j'avais compris qu'on avait une pause, mais je vais vous entendre tout de suite.
Ben, c'est super. Ben, bonsoir, docteur Labrèche.
Bonsoir, madame Mireille.
Félicitations pour votre super émission.
Merci.
Donc, ma peur,
ouais,
c'est de mourir. Oui. J'ai peur de la mort.
Oui.
Et tantôt, je parlais avec une personne et elle me demandait, savez-vous depuis quand? Oui, probablement que cette peur-là, c'est depuis que j'ai vu pour la première fois quelqu'un de décédé dans son cercueil, j'avais 9 ans. Mais c'est pas quelque chose qui me hante à tous les jours, là. Sauf que quand je me mets à penser à la mort parce que quelqu'un est mourant ou parce que je viens d'apprendre que quelqu'un vient de mourir, j'associe la mort à la douleur, la souffrance, et j'associe aussi la mort à l'inconnu. C'est quoi l'après? Parce que je suis quelqu'un qui meurt dans la vie, là, M-O-R-D, et je peux pas concevoir que après la mort, il y a comme plus rien, tu sais. Fait que quand je me mets à penser à la mort, c'est sûr que ça me fait beaucoup peur. Et là, je m'organise pour pas penser à ça longtemps parce que je me dis, bon, je suis pas rendue là, je suis pas malade, je suis pas en fin de vie. Sauf que je suis consciente que à 56 ans, tu sais, la montagne, je l'ai atteint le sommet. Je peux pas me rendre à 112 ans, là, tu sais. Fait que je suis tranquillement en train de redescendre cette belle montagne. Puis, c'est ça. Fait que, oui, j'ai peur de la mort. Mais si je vois quelqu'un de mort dans son cercueil, j'ai pas peur de la mort.
Vous avez peur vous-même de mourir. Mais vous savez que cette peur-là, elle habite 99 % des gens. La peur de souffrir, la peur de mourir, la façon de mourir. Et vous savez pourquoi les gens adoptent des religions? Pour soulager leur angoisse face à la mort. C'est-à-dire qu'on développe des croyances. Par exemple, quand un enfant dont le grand-papa est décédé et puis qu'on lui explique la mort parce qu'il pose des questions, qu'est-ce qui se passe quand on est mort? On va lui dire, on lui dit pas, ah, oh, ben là, grand-papa, il est dans le ciel, puis il va te surveiller, puis tu vas pouvoir y parler quand tu y veux, puis tout ça. Oui, tu peux lui dire ça, mais tu lui dis, moi, j'aime ça croire que de l'autre côté, il y a quelque chose qui m'attend, puis qui attend grand-papa, puis qui va te parler sur son nuage, mais il faut rajuster sous forme de croyance. Alors que si vous êtes bouddhiste, ben moi, je crois que tu vas être réincarné en quelque chose, en une énergie qui ne se perdra pas, qui va être recyclée dans l'univers, mais tu peux renaître sous forme de crapet-soleil, sous forme de bébite à patate, tu peux renaître sous d'autres formes. Alors, les religions répondent à l'angoisse si on y adhère. Ils nous donnent des réponses qui nous satisfont, d'où la recherche des différentes religions. C'est pour ça qu'elles sont différentes. Alors, merci d'avoir posé cette question. Mais oui, je ne vous dirai pas que c'est une phobie. C'est une étape naturelle de la vie. Alors là, cette fois-ci, on va en pause.
On a quelqu'un qui nous écrit « J'ai la phobie des somnambules. Ça me terrorise voir des gens qui bougent et parlent, mais ne sont pas conscients quand ils dorment. »
En général, tu en rencontres combien dans ta vie?
peut-être a-t-elle peur de son conjoint.
Il faudrait lui en parler parce que ça s'appelle une parasomnie.
Oui.
Et théoriquement, il y a des traitements pour ça. C'est une distorsion du sommeil.
Mais c'est vrai que c'est particulier de voir quelqu'un...
Puis on se demande toujours quoi faire. Je me réveille, je ne le réveille pas.
C'est ça.
Donc, il faut le ramener tranquillement sans nécessairement le réveiller. Et il faut surtout en être conscient parce qu'il peut se blesser sans le savoir.
On a quelqu'un qui dit « Mon oncle intelligent, entre guillemets, m'a suspendu enfant dans les escaliers par les pieds et ça ne m'a pas empêché d'être un monteur de ligne. Je suis suspendu jour après jour avec des cordes à des centaines de pieds du sol, faire une vingtaine de sauts en parachute. En fait, si j'ai peur, c'est de tomber de quelque chose qui pourrait casser, genre une branche d'arbre. »
Bien,
il y a des
normal.
Gens, c'est vrai, qui nous ont écrit tout au long de la soirée en disant « J'ai peur de ça, mais j'ai surmonté ma peur. » Fait qu'il y avait quelque chose aussi de une fierté. On a Magali en terminant qui disait « Elle et sa fille, en fait, elles ont peur des gens qui font du bruit avec leur bouche en mangeant.
OK.
Donc, moi, je lui ai dit, les restos, c'est pas votre endroit. Elle a dit, oh non, on évite ces lieux-là. Qu'est-ce que ça dit, ça?
En fait, ça dit que l'une et l'autre s'encouragent. La distorsion cognitive qui alimente maman qui a peur des bruits de bouche, pour quelle raison? Elle l'a transmis à sa fille. Parce que si elle a la peur, la petite, c'est sûr que maman, si elle, tu sais, les parents qui disent, là, oh mon Dieu, l'enfant va dormir avec moi, là, parce que, tu sais, il a peur la nuit. Mais l'enfant, il se dit, mon Dieu, si maman veut pas aller me coucher, c'est parce qu'il y a quelque chose de grave dans ce lit-là. Rouah! Donc, il va venir coucher avec nous autres tout le temps. De telle sorte que la peur peut se transmettre de l'un à l'autre et ça dépend de ton interprétation de ce bruit de bouche, un peu comme Saint-Pierre qui joue au bowling.
Mmh.
Alors, nous sommes à notre dernière soirée.
Oui.
À Parlons-nous santé avec Justine qui retourne dans ses terres.
Ben oui, je retourne dans mes terres auprès de notre station sœur Sim dans les Laurentides. Ça fait un plaisir de travailler avec toi.
Plaisir.
Puis de parler aux auditeurs, oui, tout au long de ces soirées-là. Ce fut un grand plaisir, mais je vous laisse entre très bonnes mains.
Oui.
Et on l'a avec nous, Maxime Lachance, qui va prendre la relève dès vendredi prochain.
Justine, bonjour. Docteur, bonjour.
Bonsoir.
Très content de me joindre à l'équipe.
Oui, parce que tu as vu passer les balles depuis qu'on a commencé l'émission.
Très, très bonne émission, d'ailleurs. Les lignes ont sonné depuis une heure et demie, là, sans arrêt. Texto aussi, on a été inondés.
Vraiment.
Très, très,
toi,
très belle.
Toi, tu y échapperas pas. C'est quoi ta phobie?
Mais, oui,
qu'on se connaisse
je me
un
doutais
peu.
Bien qu'on allait me le demander. Il y en a deux, parce qu'on a parlé vertige, puis j'ai discuté avec Justine.
Ouais.
Vertige, peur des hauteurs, deux trucs différents.
Ouais.
Également la peur des aiguilles.
Oui.
Je me suis fait accompagner d'ailleurs par une collègue ici pour les vaccins COVID-19. Donc,
ça a bien été.
Ça a super bien été. À chaque fois, ça fait la même chose.
Ouais.
Ah, c'était juste ça.
C'est ça.
C'est tout le protocole avant.
Ouais.
Arriver, les uniformes, le petit bac de déchets médicaux. Là,
ouais.
Là. Ça, puis vous le disiez tantôt, là, regardez l'aiguille, ça.
C'est
pas. Non, je suis pas un fan.
Non, ben moi non plus. J'aime pas ça, les piqûres.
Ben, je pense pas que personne...
Moi, on vient d'apprendre quelque chose.
Je ne jouis pas de faire des piqûres du tout. J'aime pas ça, faire des piqûres. J'aime pas ça, faire des points. J'en fais parce que dans ma tête, je me dis, il faut que je répare. Puis je le faisais bien. Mais j'aime pas ça. Non. Piquer quelqu'un, j'ai pas de plaisir à faire ça, là. Non. Si ça, j'avais une petite fille de 5 ans qui m'avait dit, tu me donnes des antibiotiques par piqûre ou par comprimé? Ah, j'ai dit, garde, tant que je vais être capable de te donner des comprimés, que t'es pas trop malade, que je doive... obligé d'accéder de façon de façon veineuse avec un seul thé. Je dis, non, je le ferai pas. Ou dans une fesse intramusculaire. Elle m'avait dit, oh, j'aime ça venir te voir, on peut se parler. Du haut de ses 5 ans.
Oh, mais je pense que c'est ça. C'est une question d'accompagner. Puis vous allez continuer d'accompagner les auditeurs pour les prochaines émissions de Parlons-nous santé. Et qui sait? Peut-être que je serai de retour un autre tantôt. Peut-être
Absolument.
Que Maxime va prendre des vacances à un bon moment donné.
Oui.
Vraiment, merci beaucoup. Puis quelle belle émission. On a encore les gens qui appellent. Ça a passé vite.
On est désolés de pas tous vous avoir appris. Ça passe trop vite.
Mais l'émission peut se réécouter via le 985fm.ca. Peut-être que vous allez avoir des réponses à vos questions.
Absolument. Alors, merci beaucoup à tous. Et puis, à la semaine prochaine. Pour vrai, là, on se réécoute la semaine prochaine.